Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, l'adoption du pass vaccinal par les députés après 3 jours de débats tendus. Jean Castex espère qu'il entrera en vigueur le 15 janvier. Lors de ses vœux aux autorités religieuses, Emmanuel Macron a confirmé la création d'un forum de l'islam de France qui remplacera les instances actuelles de l'islam. Le message de Mohamed Moussaoui aux responsables de mosquées, le président du CFCM, les appelle à la vigilance face à la reprise de l'épidémie. Il recommande notamment aux non-vaccinés de ne pas se rendre à la mosquée. L'ambassadeur d'Algérie en France reprend ses fonctions à Paris. Il avait été rappelé à Alger cet automne après des propos d'Emmanuel Macron jugés offensants. Enfin, un manifeste pour lutter contre le harcèlement scolaire a réuni plus de 25 000 signatures. Pour nous en parler, Hugo Martinez, président de l'association Hugo. En France, Jean Castex espère vivement une entrée en vigueur du pass vaccinal le 15 janvier. Après 3 jours de débats houleux, le projet de loi instaurant le pass vaccinal a été adopté en première lecture tôt ce matin à l'Assemblée nationale par 214 voix contre 93. Il doit désormais être examiné par le Sénat. Un justificatif de vaccination contre le Covid sera demandé à la place du pass sanitaire pour accéder aux activités de loisirs, aux bars et restaurants et aux transports publics interrégionaux. Dans les transports, une exception subsiste. Un test négatif sera accepté s'il y a un motif impérieux d'ordre familial ou de santé. À noter que passe vaccinal ne sera pas réclamé aux adolescents pour les sorties périscolaires. Parmi les mesures les plus controversées, la possibilité de réclamer un document d'identité pour les personnes présentant leur passe, par exemple au restaurant. Le président Macron a reçu les autorités religieuses hier soir, était présent à l'Élysée les représentants des cultes catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes. À cette occasion, le chef de l'État les a remerciés pour leur capacité à proposer du lien en cette période de crise sanitaire. Il a par ailleurs dénoncé les actes anti-religieux, 1400 actes recensés l'an dernier. Emmanuel Macron a par ailleurs confirmé la création d'un forum de l'islam de France, une représentation de l'islam basée sur les acteurs départementaux et non plus à partir des fédérations affiliées à des pays. Le Conseil français du culte musulman appelle les mosquées de France à mettre en place des protocoles de prévention adaptés à la situation exceptionnelle liée à la propagation des cas de Covid-19. Son président Mohamed Moussaoui recommande notamment aux fidèles non vaccinés de ne pas se rendre à la mosquée. Nous l'écoutons.
Nous avons fait le constat que la vaccination a pu conférer une forme de protection pour ceux qui sont vaccinés. Il suffit de voir les chiffres publiés sur les formes les plus graves de Covid-19, et notamment en réanimation. Donc à cette occasion, nous avons appelé ou rappelé, recommandé à l'ensemble de ceux qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas leur schéma vaccinal complet de le faire dès que possible. Et nous avons demandé également, dans un souci de les protéger, de protéger ceux, les autres fidèles, de ne pas se rendre à la mosquée tant qu'on n'a pas son schéma vaccinal complet. Bien entendu, il n'y aura pas de demande de passe vaccinal à l'entrée des mosquées, mais nous nous adressons à la conscience de tous nos fidèles pour leur dire clairement que le vaccin il protège des formes plus graves, donc il faut le faire. Puis nous avons demandé également, même lorsqu'on est vacciné, il faut vraiment prendre toutes les mesures nécessaires et respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention qui ont été déjà mises dans le passé de nos mosquées, mais la situation exceptionnelle que nous vivons aujourd'hui nous oblige à les remettre si ce n'est pas encore fait. À ce titre, donc, nous avons demandé évidemment l'aération des salles de prière, c'est très important, même lorsqu'il fait frais. Je pense que les fidèles doivent savoir masque, l'aération des pièces est très important. La distanciation physique, même s'il n'est pas obligatoire aujourd'hui, il faudrait le faire lorsque c'est possible et vraiment même une petite distanciation physique qui ne permet pas le contact est importante. Nous avons demandé également le port obligatoire du masque à l'intérieur de la mosquée, mais aussi aux abords des mosquées, et d'éviter tout rassemblement autour de la mosquée. Nous avons demandé aussi aux fidèles, comme on l'avait fait les mois derniers, de ramener un tapis individuel et tout objet cultuel individuel pour ne pas le partager avec d'autres. Nous avons demandé naturellement l'utilisation régulière du gel hydroalcoolique, l'adoption de sens de circulation à l'intérieur de la mosquée qui évite aux fidèles de se croiser. Nous avons demandé aux imams de raccourcir la période d'attente des prières. Vous savez, lorsqu'il y a une prière, il y a un temps d'attente avant que la prière soit accomplie, de faire en sorte que lorsqu'il s'agit d'un prêche, de le raccourcir pour ne pas permettre, en fait, pour permettre aux fidèles de ne pas rester stagnés ou dans un lieu fermé pendant longtemps. Nous avons demandé aussi aux fidèles qui sont testé positif, de signaler immédiatement et de respecter les règles d'isolement en vigueur dans notre pays. Surtout d'alerter toutes les personnes qui peuvent être en cas contact. Nous avons demandé aussi à ce que les personnes qui ont des symptômes de grippe ou similaire, de s'abstenir de venir dans la mosquée, de se faire tester très, très vite. Nous avons demandé également à ce que toutes les personnes, notamment les plus âgées, ceux qui présentent des comorbidités, d'éviter au maximum de venir dans la mosquée et en tout cas de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger. Je pense que c'est des mesures nécessaires, compte tenu de la situation exceptionnelle, qu'il faudrait remobiliser, si j'ose dire, les fidèles pour que ces mesures soient respectées le maximum possible.
Vous l'avez dit, beaucoup de ces mesures ne sont aujourd'hui pas obligatoires dans les lieux de culte. Est-ce que vous déplorez cette absence d'obligation ? Est-ce que vous souhaiteriez qu'un protocole sanitaire soit envisagé dans l'ensemble des lieux de culte de toute confession ?
Je pense que les pouvoirs publics ont saisi le fait que aujourd'hui, les responsables des lieux de culte ont acquis une certaine maturité, une certaine expérience dans la gestion, et ils ne souhaitent peut-être pas édicter des décrets. On sait très bien que les cultes ne sont pas forcément dans la même configuration. Le culte musulman, nous savons par le fait qu'il y a des prosternations sur des tapis, les personnes sont les uns aux côtés des autres, les salles de prière souvent elles sont pleines, parce que les espaces sont réduits. Peut-être un autre culte comme le culte catholique, où parfois les cathédrales sont très spacieuses et le nombre de personnes réduit, leur permet de respecter facilement les mesures. Raison pour laquelle je pense que laisser cette liberté au culte de s'adapter à une situation exceptionnelle, tout en ayant capitalisé sur l'expérience passée, ça peut être une solution intermédiaire, au lieu d'obliger ou par des décrets ou des mesures uniforme à tous les cultes.
Et on l'a entendu, vous appelez donc les personnes non vaccinées à ne pas se rendre dans les mosquées, notamment à la grande prière de ce vendredi.
Tout à fait, il ne s'agit pas d'un refus des non vaccinés d'entrer dans une mosquée. Il n'y aura pas de vérification de passe vaccinal à l'entrée des mosquées, mais nous recommandons, nous appelons vraiment les non vaccinés à la responsabilité, au fait qu'ils sont vulnérables d'abord plus que les autres, mais aussi lorsqu'ils sont porteurs du virus, ils peuvent le transmettre d'une manière beaucoup plus importante que ceux qui sont vaccinés. Donc c'est un appel fraternel à tous les fidèles effectivement de prendre la mesure de la situation et le vaccin, c'est aujourd'hui reconnu et admis par toutes les autorités scientifiques du monde que le vaccin protège et participe à la protection. Il suffit de voir le nombre de réanimés malgré les nombres importants de contaminations, il reste quand même réduit. Et je pense que ça, c'est lié aussi à la vaccination.
Le président du CFCM, Mohamed Moussaoui, au micro de François-Xavier de Calonne. L'ambassadeur d'Algérie en France reprend ses fonctions ce jeudi, c'est ce qu'a annoncé la présidence algérienne. Le président Tebboune a reçu hier l'ambassadeur Mohamed Antar Daoud Avant son retour à Paris, le diplomate avait été rappelé en octobre pour consultation après des déclarations du président Emmanuel Macron jugées offensantes par l'Algérie. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, reçu hier par le roi Abdallah II de Jordanie. Ils ont évoqué le conflit israélo-palestinien et les moyens de renforcer la coopération entre Israël et la Jordanie. Les relations entre les deux pays s'étaient détériorées lors du mandat de l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Un Palestinien tué par l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie, âgé de 21 ans, il était originaire du camp de réfugiés de Balata. Un manifeste pour la création du délit de harcèlement scolaire. Il rassemble plus de 25 000 signataires, une initiative de l'association Hugo qui combat le harcèlement à l'école et qui aide les victimes. Comment ce harcèlement se traduit-il? On écoute Hugo Martinez, le président de cette association.
C'est le même enfant, le même élève qui va subir différents types d'attaques. Et donc on va avoir des attaques physiques, des attaques verbales. On va avoir le harcèlement social où on vise vraiment à isoler l'enfant. Donc par exemple, volontairement ne pas l'intégrer dans une équipe de sport ou ne pas l'intégrer dans un travail de groupe, etc. Et donc il se retrouve tout seul. Ça peut être du cyberharcèlement, ça peut être du harcèlement aussi malheureusement sexuel. Donc la répétitivité, mais c'est aussi finalement le déséquilibre de force. Vous savez, dans le harcèlement scolaire, il y a une victime, et puis derrière, il y a souvent un ou deux, dans tous les cas, il y a un minimum, et voire plusieurs leaders auteurs des faits de harcèlement, mais derrière, il y a tout le groupe derrière classe qui se construit autour de ces auteurs des faits de harcèlement. Et donc, il y a un déséquilibre de force. Vous avez un élève face à tout un groupe. Et puis le dernier point, le dernier critère, c'est toujours le silence, la peur de parler, parce que c'est la peur de représailles, c'est la peur de faire honte à ses parents, c'est la peur de tout ça. Donc toutes ces peurs, c'est vraiment ce silence, cette omerta qui se crée. Ben, ça, ce sont les trois grands critères du harcèlement scolaire. Est-ce qu'il doit alerter les parents à la maison, mais même au-delà des parents, tout le monde a un rôle à jouer. Ça peut être un oncle, une tante, des grands-parents, un parrain, une marraine. C'est tout changement brusque de comportement. Alors un changement brusque de comportement, c'est quoi? Ça peut être alors qu'on avait un élève par exemple qui était plutôt calme, qui devient agressif, ou alors une chute drastique des notes. Ou encore peut-être qu'un élève qui s'isole dans sa chambre. Alors soit pour jouer des jeux vidéo, ou faire différentes occupations, soit rester seul. Quelqu'un qui va être plutôt renfermé alors qu'il était plutôt jovial. Bref, tout changement brusque de comportement, ça peut même aussi avoir lieu sur les affaires parfois. Le sac qui revient tout abîmé, les affaires volées, etc., tout ça doit alerter et doit mener les parents à démarrer une sorte de petite enquête pour savoir ce qui se passe derrière tout ça.
Une personne, un élève victime de harcèlement à l'école, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller?
C'est vrai que souvent, quand on parle justement de libérer la parole, on dit souvent aux élèves, ça peut être soit un adulte de l'établissement scolaire, et là il faut voir assez large, parce qu'on pense souvent aux professeurs, mais il y a les enseignants, il y a les surveillants aussi. Il y a le personnel de cantine, s'il est formé, en plus ça peut être vraiment de cantine, de nettoyage, de sécurité. Mais à la maison, la famille, on pense souvent aux parents, mais ça peut être aussi le grand frère, la grande sœur, par exemple, d'autant plus s'il est majeur ou s'il est majeur. Mais ça peut être l'oncle, la tante, ça peut être les grands-parents, comme je disais, le parrain, la marraine. À partir du moment où un adulte est bien courant, il saura à qui redonner la bonne information dans le bon contexte. Parfois, la parole orale, verbale peut être difficile, donc parfois on conseille aux enfants et je leur conseille de passer peut-être par l'écrit, peut-être par d'autres biais pour poser finalement les mots M-O-T-S de leurs mots, M-A-U-X, finalement parce que ça peut être parfois plus facile.
Et faut-il faire comprendre à la victime que ce n'est pas elle qui a un problème, mais que ce sont ses agresseurs qui ont de la violence en eux?
Bien évidemment, il ne doit y avoir à aucun moment une crainte de parler. La peur doit changer de camp. Et surtout, c'est que rien ni personne ne doit empêcher un élève de parler, même s'il a le moindre doute. Et là, je reste aussi au témoin. Même si vous avez le moindre doute en tant que camarade de classe, et ce moindre doute, exprimez-le à l'adulte, et l'adulte saura, lui, en conséquence, réagir. Mais ce doute, ne le gardez pas pour vous, parce que ce doute peut être destructeur.
Vous, aujourd'hui, vous militez pour la création d'un délit de harcèlement scolaire. Qu'est-ce que cela engendrerait?
D'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce délit, pourquoi on souhaite le créer? C'est parce qu'on est dans une situation qui est intolérable. Les victimes de harcèlement scolaire et leur famille, ce qu'il faut le rappeler, c'est que le harcèlement scolaire touche, bien sûr, avant tout l'élève, mais ça touche aussi sa famille. C'est que d'abord, il y a aujourd'hui encore une difficulté à entendre « je te crois ». je te crois en tant qu'enfant qui a été victime de harcèlement scolaire. Et c'est tout un combat pour se faire entendre. Mais au-delà de ça, deuxième injustice, c'est quoi? C'est que pour la reconstruction, pour l'après-harcèlement scolaire, ça représente un coût. Parce que oui, il faut emmener l'enfant suivre un thérapeute, suivre peut-être un diététicien, un nutritionniste, parce qu'on a pas déjà des troubles du comportement alimentaire. Bref, il y a tout un coût et que toutes les familles ne peuvent pas finalement assumer, bien qu'ils ont un amour incontestable pour leurs enfants. Mais au-delà de ça, la troisième peine qui ressort de tout ça, c'est que dans la plupart des cas, la situation se résout d'une façon drastique et inadmissible, c'est qu'on change l'élève victime d'établissement scolaire. Alors, je critique cela, mais changer l'élève auteur des faits de harcèlement scolaire ne serait pas non plus une solution, parce qu'on ne fait que déplacer le problème dans tous les cas. Donc ce délit, qu'est-ce qu'il propose? Il propose en fait d'un côté d'abord pour la victime et sa famille d'être reconnue au statut de victime. Et l'idée à long terme, c'est de pouvoir ouvrir ensuite à ces victimes de nouveaux droits au niveau de la sécurité sociale pour la prise en charge des soins thérapeutiques que j'évoquais. Nous, on l'estime à peu près à 500 euros par mois les frais que ça représente. Et puis de l'autre côté, pour le ou les auteurs des faits de harcèlement scolaire, c'est d'abord reconnaître, leur faire comprendre qu'ils ont dépassé une ligne rouge, qui est la loi française, comprendre que leurs actes sont interdits par la loi, mais surtout comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Parce que dans 9 cas sur 10, on est sur des enfants qui sont soit d'anciennes victimes de harcèlement scolaire, soit qui ont un complexe physique, intellectuel, sportif à cacher. Et donc, finalement, l'idée, c'est bon, on est dans de la justice des mineurs, donc bien que sur le texte, d'un point de vue législatif, il y a inscrit une peine financière et une peine de prison, mais dans la réalité des faits, on est sur la justice des mineurs. Donc le juge pour mineurs a toute une panoplie d'outils, entre autres une obligation de suivi de soins thérapeutiques. Avec le thérapeute, l'enfant auteur des faits de harcèlement scolaire pourra identifier d'où ça vient ce mal-être. Mais ça peut être aussi, et c'est d'ailleurs l'un des articles de loi de cette proposition de loi, en créant un nouvel outil dédié, si je puis dire, aux mains des juges pour mineurs, c'est la création d'un stage de responsabilisation et de sensibilisation au harcèlement scolaire.
Hugo Martinez, président de l'association Hugo, au micro de François-Xavier de Calonne. Et si on en parlait à 19h et 23h sur Radio Orient, le thème de l'émission 2022, année de tous les dangers au Sahel pour la France, point d'interrogation, Alexis Bachelet reçoit Jean-Marie Bockel, ancien ministre, et Olivier Vallée, économiste et spécialiste de l'Afrique. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à l'écoute de Radio Orient.